Voyage seul. Les femmes qui ne coûtent rien. J'ai un ami nommé Florian, oh qui ne fait pas de fable. Il a 35 ans, 7221 francs de rente et un grand fonds de gaieté. Il y a 8 ou 10 jours, Florian est arrivé tout rayonnant sur la terrasse du Tortoni. « Je l'ai trouvé » s'est-il écrié. « Et quoi » demanda-t-on à la ronde. « La quadrature du cercle, le mouvement perpétuel, la forme définitive du gouvernement ?» Et Florian sourit avec dédain. « J'ai trouvé la femme qui ne coûte rien. » « Oh non, je crois que Planchon, montant sur le trône de France, n'exciterait pas une hilarité plus prolongée que celle qui accueillit cette triomphante confidence. » « Je les connais, les femmes qui ne coûtent rien, » dit tristement le comte Robert. « Ce sont celles-là qui m'ont ruiné. » « Il y a femme et femme, » reprit Florian. « Allons donc. La banalité passe comme un rouleau de fronte sur les sentiments du monde facile et n'y laisse qu'une surface grise et plate comme celle du macadam. Le mariage est entouré de trop de périls. Il nous épouvante comme l'éternité. Aussi commençons-nous par les filles qui ne laissent après elles que le dégoût et la lassitude. Marguerite Gautier est l'invention d'un poète. Dalila n'a que faire d'une paire de ciseaux. Pourquoi couper les cheveux à un homme à une époque où ils tombent tout si vite ? Florian fit un haut-le-corps. Oh, permettez, je ne faisais pas de philosophie. Je ne dis pas que j'aime et que je suis aimé. Il n'est pas question de reconstruire une virginité, de compléter le repentir de Madeleine en faisant d'elle une mère de famille. Non, je dis simplement que j'ai trouvé la femme qui ne coûte rien. Eh ben, c'était un ambigu. On terminait le portier de je ne sais plus quel numéro. Mais si quelqu'un tient à le connaître, au juste, il n'a qu'à mettre le nez dans une colonne. Cette étrangère, jeune, blonde, bien faite, attira mon attention. Elle avait un air abruti que j'attribuais à la pièce que nous venons de voir. Offrir mon bras, causer, faire l'aimable, obtenir une réponse, puis un sourire, oh, ce fut l'affaire d'un instant. Avez-vous offert une voiture ? Oui, certainement. Et elle a répondu, j'aime mieux aller à pied. Un souper ? Parbleu, elle m'a dit, oh, inutile d'aller au restaurant, nous trouverons mieux chez moi. Son histoire n'est pas longue, elle me l'a racontée en découpant une sardine à l'huile. Veuve à 18 ans, elle a quitté Dijon pour venir vivre à Paris. Elle est là depuis 6 mois. Elle a une bonne à 6 francs par semaine, 1000 francs de loyer. Elle se trouve heureuse avec une pension viagère de 10 000 francs qu'elle a retrouvée dans le testament de son défunt mari. Eh bien, attendons. Le lendemain, on demande à Florian, « Alors, qu'as-tu fait hier ?»« Oh, je suis allé à l'opéra, comique. On m'a fait payer une loge de 40 francs. Et malheureusement, c'était pas jour de marché à la Madeleine. » La bouquetière du passage m'a revendu les 15 francs à un paquet de filets blancs, Après mignon, j'ai cru devoir rentrer à ma petite veuve son sardine à l'huile d'hier au soir. Alors nous sommes allés au café anglais. « Oh, c'est raide. Raide, raide, dit le comte. Oh, tu donneras celui-là à l'ambulance pour compléter son marché de gruyère et de rue. 3 jours se passent. Florian aborde un de nos amis et lui dit: prête-moi donc 500 francs jusqu'à ce soir, jusqu'au 30. Le 8e jour, Florian avait des airs plus dégagés et demanda: allons ce soir aux Folies Bergères? Tiens, tu es seul? Mais oui. Et ta femme qui ne coûte rien? Elle m'a demandé 6 000 francs pour les loyers en retard. Et alors, je me fais envoyer une dépêche de Bougival disant qu'on venait de repêcher mon corps près de l'île de Choisy, Murger, qui est mort célibataire, a passé sa vie à côté de femmes qui ne coûtaient rien. J'en ai aimé 3, disait-il. La première se nommait Mimi, la seconde Mimi et la troisième Mimi. Mimi première était une de ces joyeuses filles du quartier latin, moitié fleuriste, moitié fruitière. Je gagnais 90 francs par mois au corsaire. 8 francs de plus que Champfleury, qui en dépérissait de jalousie. Je faisais 2 parts de mes appointements. 80 francs pour Mimi, 10 francs pour moi. Bon, j'avais beaucoup de mal à arriver jusque-là, jusqu'au 30, mais l'amour me soutenait. Et un jour, jour fatal, Mimi eut mal aux dents. Un artiste fut obligé de lui introduire en pleine manche molaire un fragment de ce métal précieux qui est le père de tous les criminels. Il fallait 30 francs. Bose me les refusa. Nadar fit 3 francs. Le caissier du journal me dit que j'étais la plaie de l'administration. Il me ferma la porte au nez. Alors j'adressai une lettre au ministre de l'Intérieur pour lui demander l'autorisation de lancer une loterie. Pas de réponse. Et désespéré, je rentrais dans ma mansarde de la rue des Maçons, Sorbonne, et j'avalais d'un trait une fiole de l'eau d'un homme, héritage d'une tante de province. Étendu sur mon lit, j'attendais la mort. Et ce fut Mimi qui entra. « Qu'as-tu ? » me dit-elle. Je lui montrai le flacon en disant « Impossible de payer le dentiste. Je suis empoisonné. » Elle saisit fébrilement la fiole et se précipita dehors en criant « Je vais chercher du secours. » À peine fut-elle sortie que je perdis connaissance. Une heure après, quand je rouvris les yeux, la concierge me soignait. Un médecin était à côté d'elle. « Vous êtes sauvé, » dit-il. « Et moi, où est Mimi ?»« Ah, madame, » fit la portière, « je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle allait chez Bullier. » Une demi-heure après, j'entrais dans ce jardin où s'arborent nos futurs licenciés en droit, et au milieu d'un quadrille échevelé, j'aperçois Mimi levant la jambe plus haut que les autres. Au milieu d'une figure, elle m'aperçut et me cria « Tu vas mieux, mon ami? Oh, c'est égal, j'ai une dent contre toi. » Et Mimi 2 « Oh, Mimi, juré que 3 mois. » Elle a duré que 3 mois. Elle a filé avec un domestique russe qui se faisait appeler le prince Volskov. Cette nouvelle m'est arrivée à 1 h du matin. À cette époque, j'avais fait une demi-fortune. Je faisais par an 2 volumes à 3 000 francs. J'habitais dans un somptueux cinquième dans la rue Notre-Dame-Bleurette. Je rentrais, croyant trouver Mimi à sa place accoutumée, un livre à la main, un cigare à la bouche, la lampe piquant le tout. Du haut de la table, et obscurité complète. J'appelle, pas de réponse. Je frotte une allumette, et je vois les armoires vidées, les tiroirs béants. Je cours à la caisse, 135 francs disparus. Elle m'avait volé comme un simple pickpocket de l'autre côté de la Manche. J'aperçois enfin un papier et je lis. J'ai lutté jusqu'au dernier moment. Tu as de l'avenir, mais pas de présent. Alors je cède au prince Valeskov. J'ai dû faire argent de tout pour payer mon voyage. La place ayant laissé tous ses fonds en Suisse. Si tu déposes une plainte, je dirais que tu es de la police, celle qui t'aime encore, Mimi. Et la troisième, oh, n'en parlons pas, il en est mort. Cependant, le pauvre homme avait des ressources d'esprit incroyables. Il me faut 200 francs pour Mimi, disait-il un jour. Ce sera dur de trouver. Je dois 3 000 francs à la revue, 2 000 au Figaro, 1 200 francs à la Société des auteurs et 4 000 francs à Madame Portier. Il revint une heure après avec les 200 francs. Ah, tu as donc réussi. Oh, ça a été dur, mais c'est venu. J'ai dit à Madame Portier que Mimi était mourante. « Oh, monsieur Mangère, m'a-t-elle dit, cette dame est bien souvent malade. »« Oh, pardon, monsieur, j'ai crié. Les autres fois, j'avoue que c'était une ruse. Mais aujourd'hui, je jure que c'est une vérité. »« Ah, c'est que vous êtes en avance pour une forte somme et vous ne travaillez pas. » Comment je ne travaille pas? J'ai passé la nuit à étudier chez Brébant, avec Lambert tous pour notre grande pièce Les Surprises de Paris. Monsieur Murgère, impossible de vous donner quoi que ce soit en ce moment. Heureusement pour Murgère, le ciel a une réserve d'inspiration et de temps en temps, il en jette une à ses élus. Murgère entre chez un pharmacien et reparaît l'instant d'après chez Madame Porcher. Douteriez-vous encore? S'écrie-t-il. Et il montre un verre recouvert d'un papier percé de petits trous et à l'intérieur, trois reptiles s'aplatissent et s'allongent contre les parois du cristal. « Oui, Mimi est au plus mal. Voici les sangsues. » Madame Porcher ouvrit sa caisse et donna les 200 francs à demander. Nébuleuse. « Oh là là! Encore un soupir! Oh !» Nous avons aujourd'hui dans Paris une véritable nébuleuse de femmes abandonnées. Il y a la queue de 300 000 francs qui fleurissent sous l'Empire. Et les victimes de la guerre, veuves ou orphelines. Comment faire pour arriver et pour nourrir tout ce monde? On est effrayé si on y ajoute 60 000 institutrice, 83 000 maîtresses de piano, et le reste, sans compter les bébés blonds et roses auxquels la recherche de la paternité est interdite. La mine est épuisée, le filon est perdu. Il n'y a pas jusqu'à cette pauvre baronne de C qui, après avoir vendu ses bijoux, puis ses meubles, ne sait plus où donner de la prunelle. Ses voitures sont loin. Les chiffres en ont été grattés. De son axe passé, succès passé, elle n'a gravé que son nègre. Elle l'a seulement gardé, lui, à Zabord du 19 janvier. Le Zabord est arrivé chez le banquier, elle, un ancien ami, avec une lettre tirée de la baronne. « Cher, disait-elle, je suis dans le plus grand embarras, envoyez-moi 25 louis. » Le banquier avait déjà beaucoup pour envoyé, lui-même est gêné, non rassuré du tout pour demain. Alors il répondit qu'il ne pouvait pas. Le nègre à qui il est dû à 3 mois de gage est rentré furieux. « Hélas, disait la baronne, les temps sont durs. Mon nègre m'a battu. »